Vous écoutez, on lit pour vous.
Ne bougez plus devant ce prédateur repu. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 1er février 2025 dans la presse. La stratégie canadienne du buffle face au président Trump n'a pas fonctionné. Généralement, devant la menace d'un groupe de lions, les buffles serrent les rangs et font face aux félins. Parfois, ils avancent même vers les prédateurs pour les intimider à leur tour. Seulement, les lions savent qu'il suffit d'un harcèlement convaincant pour que la défense qui semblait solide se disperse et que le sauve-qui-peut commence. Au Canada, c'est ce que Donald Trump a fait dès qu'il a annoncé son projet de taxation. De sa Floride ensoleillée, il a ensuite regardé ses proies courir dans toutes les directions. Complètement secoué, Justin Trudeau a fait rapidement le voyage vers Mar-a-Lago et est revenu avec de fausses bonnes nouvelles. Sentant son grand pouvoir de prédateur suprême faire mouche, M. Trump a décidé de frapper le Canada plus fort, forçant M. Trudeau à convier les provinces à une rencontre pour afficher une ligne de défense commune. Un semblant d'unité et de solidarité nationale qui a rapidement volé en éclats devant les assauts répétés de Donald Trump qui, il faut le rappeler, trouve dans son art d'intimider, de rabaisser et d'épouvanter un élixir de longévité. Très vite, les intérêts économiques irréconciliables entre les provinces ont créé des brèches dans la défense canadienne. Aussi, pendant que M. Chrétien chantait l'unité de la Confédération, l'Alberta a affiché clairement sa dissidence et est allé plaider une exception pour ses hydrocarbures auprès du prédateur repu. Depuis, la valse des politiciens fédéraux et provinciaux est si intense autour de Donald Trump que l'espoir commençait à envahir nos cœurs d'un océan à l'autre. Malheureusement, le jeudi 30 janvier 2025, le président américain nous a annoncé avec désinvolture que sa taxe de 25 % allait nous tomber dessus. Ce solide coup de poing a malmené le dollar canadien, secoué les marchés financiers et plongé nos milieux politiques, économiques et médiatiques dans une nouvelle débandade. Pourtant, à mon avis, surréagir à chaque manifestation sonore du prédateur repu et tapi dans les broussailles de son terrain de golf est la chose à ne pas faire. Donald Trump est un vieux lion repu qui adore parfois bien plus l'excitation de la chasse que le gibier. Un lion qui chasse pour tuer ne rugit pas, disait mon grand-père. Les nombreux rugissements de M. Trump qui déchirent la savane politique servent surtout à rappeler qu'il est le roi incontestable de la brousse. Donc, il faut réapprendre à le juger par ce qu'il fait plutôt qu'à trembler chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il faut aussi se rappeler, en tout temps, que c'est et le niveau de panique et la volonté manifeste de le défier qui décuplent l'instinct de chasse de ce type de prédateur. Quand la souris fige, l'intérêt du chat pour la traque baisse. Cependant, la moindre agitation excite de nouveau le petit félin. Alors, pour la suite de cette séquence d'intimidation qui cible le Canada, je propose à nos politiciens de rester un peu plus impassibles, de faire croire au prédateur repu qu'il est l'étoile qui brille seule au sommet de l'arbre généalogique du vivant. Même si on doit organiser une riposte, si puissante soit-elle, il faut le faire dans le silence et rester flegmatique devant ses rugissements. Bref, il faut faire le mort pour ne pas doper ses instincts de prédation. En biologie, la thanatose, cet art de faire le mort pour échapper à son prédateur, est un comportement de survie qui a fait ses preuves. Pour la suite de notre relation avec Donald Trump, je propose d'adopter la stratégie de l'opossum de Virginie comme modèle de coexistence avec le maga prédateur. Ce petit mammifère nocturne est le seul marsupial vivant en Amérique du Nord. Il est aussi atypique et bizarre que le président américain puisse l'être dans sa façon de faire de la politique. Parce qu'il a un pénis bifide qui ressemble à une fourchette à deux pics, je parle évidemment ici de l'opossum, dans un ouvrage qui date de 1952, le zoologue américain Carl Hartman rapporte cette fausse croyance qui voulait que les opossums copulent par leur museau. Après l'accouplement, les bébés se formaient dans leurs narines et quittaient le nez grâce à un éternuement qui les faisait atterrir dans la poche marsupiale. Cet animal a poussé l'art de simuler la mort à son niveau le plus théâtral, un comportement que les politiciens et les médias canadiens gagneraient à imiter pour survivre au deuxième mandat de Donald Trump. En plus de rester immobile, la bouche grande ouverte et le corps en position recroquevillée, l'opossum ralentit ses fonctions vitales et dépose de l'écume sur ses lèvres. L'animal pousse même la supercherie évolutive jusqu'à uriner et sortir de son derrière une substance visqueuse à l'odeur de cadavre. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour décourager M. Trump de nous harceler. Cependant, cette mise en scène multisensorielle de la mort nous placerait potentiellement hors du radar d'intérêt du prédateur repu des Amériques. Puisque les morts ne peuvent pas louanger quelqu'un, lécher ses bottes ou se faire épouvanter, son intérêt pour nous déclinerait rapidement. Parallèlement à cette stratégie d'effacement, les libéraux de Justin Trudeau gagneraient aussi à arrêter de provoquer le prédateur repu. « Un lion a beau être édenté, disait mon grand-père, sa tanière ne sera jamais un lieu de repos pour une gazelle. » Les libéraux ont commis l'indélicatesse de diffuser des publicités comparant Pierre Poilievre à Donald Trump, alors que ce dernier revenait tranquillement vers le pouvoir. Maintenant que le vieux lion est bien installé dans sa tanière pour 4 ans, je croyais qu'ils allaient cesser ces tentatives de diabolisation du chef conservateur par association avec Donald Trump. Ce n'est visiblement pas le cas, car celui qui est pressenti pour remplacer Justin Trudeau, Mark Carney, continue de comparer M. Poilievre au maga prédateur, avec lequel il devrait cohabiter pendant 4 ans s'il remportait les prochaines élections. Cette ostensible diabolisation de M. Trump est une très mauvaise posture politique, car le très narcissique président Trump ne pardonne pas facilement les blessures de l'ego qu'on lui inflige. Je suis conscient que ma proposition est une stratégie de loser et d'aplaventrisme, mais elle est aussi une stratégie de survie lorsqu'on n'a qu'une simple machette pour se défendre contre une brute mégalomane armée d'un fusil d'assaut. La langue a toujours intérêt à ne pas se quereller avec les dents, disait ma grand-mère. Le Canada est un castor qui a toujours marché à l'ombre de l'éléphant américain. Malheureusement, cette stratégie a ses parts de risque. Quand l'éléphant trébuche, c'est le castor qui écope. Et quand le pachyderme a la chiasse, le castor n'est pas plus épargné. Alors, lorsque nous sortirons de ce gros merdier dans lequel Donald Trump nous enfonce collectivement, il faudra trouver une façon de s'éloigner économiquement de l'ombre de l'animal emblématique du Parti républicain. En attendant ce nécessaire virage, on peut faire quelque chose. Achetons les produits québécois et canadiens. Entre deux marchandises, faisons l'effort d'encourager les producteurs d'ici. Même si c'est pour quelques dollars, ça vaut la peine. C'était « Ne bougez plus devant ce prédateur repu », un texte de Boukhar Diouf paru le 1er février 2025 dans La Presse.
Un parcours dramatique, un destin lumineux, un texte de Marie Tison, paru le 12 mars 2024 dans la presse. Le centenaire de Ludmila Shiriaev, 1924-1996. Comment une toute petite ballerine de 7 ans, dans le Berlin des années 1930, peut-elle finir par influencer toute l'histoire de la danse au Québec? La vie de Ludmila Shiriaev, à la fois dramatique et lumineuse, illustre l'influence que peut avoir une seule personne. Ludmila Shiriaev naît le 10 janvier 1924 à Riga, en Lettonie. Son père est russe, sa mère polonaise. Ils ont dû fuir la Russie lors de la Révolution russe. Mes grands-parents se sont perdus de vue pendant 7 ans, raconte Katia Mead, la plus jeune des 5 enfants de Ludmila Shiriaev. Mon grand-père avait été touché par une baïonnette dans l'estomac. Il ne pouvait pas marcher facilement. Ma grand-mère était assez âgée. Donc, pour eux, le fait d'avoir une enfant après tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient perdu, c'était vraiment un cadeau. La famille s'installe par la suite à Berlin, où la petite Ludmila s'initie au ballet dès l'âge de 7 ans. Elle progresse rapidement et commence à danser dans des productions des ballets russes et du théâtre Mollendorf. La Seconde Guerre mondiale met fin à sa jeune carrière. Elle se fait brièvement enfermer dans un camp de concentration en 1939 parce qu'on la croit juive. Puis, elle connaît les bombardements à Berlin. L'attitude de son père l'aide à survivre à ces épreuves. Il passait beaucoup de temps avec elle parce que c'était un poète. Il travaillait comme traducteur de littérature. Il a créé une espèce de bulle magique autour de ma mère, ce qui l'a aidé à passer à travers des moments difficiles, comme si elle avait eu des lunettes fumées de couleur, se souvient Katia Mead, fille de Ludmila Shiriaev. Elle raconte comment, au sortir d'un sous-sol après un terrible bombardement qui avait détruit leur édifice, ils aperçoivent une maison en proie aux flammes. Il y avait un feu très fort, très passionné, à l'une des fenêtres, raconte Madame Mead. À l'autre fenêtre, il y avait de petites flammes. Son père lui a dit « Regarde, Ludmila, cette première fenêtre, c'est du Wagner. L'autre, c'est du Mozart. » Ça change complètement la façon de voir les choses. On survit ainsi à des moments effrayants. La Suisse, puis le Canada. Ludmila Shiriaev s'installe en Suisse dans les années 1940 et reprend sa carrière en tant que danseuse et chorégraphe. Puis elle émigre au Canada en 1952 avec 2 enfants, enceinte d'un 3e, avec très peu de sous, avec une adresse pour une espèce d'agence de réfugiés, avec un mari qui fait de la peinture et qui n'a pas de sous non plus. Cela ne l'empêche pas de créer une première école de ballet à peine quelques semaines après son arrivée, puis une compagnie de danse. Ça a commencé tout petit et ça a grandi. Elle a également eu beaucoup de chance d'arriver alors que Radio-Canada commençait, évoque Katia Mead, au sujet de sa mère. Ludmila Shiriaev chorégraphie Cendrillon pour la Nouvelle Société d'État, qui aime tellement la performance qu'elle lui commande régulièrement d'autres ballets. Les ballets Shiriaev, c'était vraiment une compagnie pour la télé, indique Marc Lalonde, directeur général des Grands Ballets canadiens. C'est original comme origine et comme développement de compagnie. C'est ce qui a permis la naissance et la constitution des Grands Ballets canadiens en 1958. Jean Grandmaître, un élève de Madame Shiriaev, qui est devenu un chorégraphe de classe mondiale, explique qu'elle avait choisi ce nom pour donner de la gravitas à la compagnie et pour qu'elle se compare avantageusement au Ballet national du Canada et au Royal Winnipeg Ballet, même si elle avait 12 danseurs et pas de budget. À partir de l'académie qu'elle avait créée, elle fonde l'École supérieure des grands ballets canadiens en 1966, une institution qui prendra plus tard le nom d'École supérieure de danse du Québec, puis d'École supérieure de ballet du Québec. Elle savait jouer dans le milieu politique, autant dans le milieu politique séparatiste qu'au sein du gouvernement canadien. Elle voulait du financement pour sa compagnie. Elle a jonglé avec 8 quilles toute sa vie, rappelle Jean Grandmaître. Ludmilla Chiriaeff était évidemment attachée au ballet classique, mais elle a compris qu'il fallait établir un contact avec les nouvelles générations. C'est ainsi qu'en 1970, elle a monté avec son complice, Fernando, le ballet Rock Tommy, sur la musique de Who. Ils ont récidivé avec la musique de Beau Dommage, au grand plaisir de Katia Meade. J'écoutais Beau Dommage à l'époque, et chaque fois que je voyais le ballet, ça me donnait des frissons. Puis c'était super cool de rencontrer un groupe qui était tellement populaire avec les gens de ma génération. Ludmilla Chiriaeff s'est retirée de la direction artistique des grands ballets canadiens en 1974 pour se consacrer à la formation, pour superviser l'école supérieure, bien sûr, mais aussi pour implanter des programmes dans des écoles primaires et secondaires. Elle a peu à peu diminué ses activités et est morte le 22 septembre 1996 à Montréal, à l'âge de 72 ans. Elle est enterrée dans un petit cimetière charmant à côté d'une église russe près de Rawdon, dans un petit village perdu dans l'histoire, raconte Katia Meade. Vous écoutez Un parcours dramatique, un destin lumineux, un texte de Marie Tison, paru le 12 mars 2024 dans la presse. L'année 2024 marque le 100e anniversaire de naissance de Ludmilla Chiriaeff, fondatrice des grands ballets canadiens et de l'école supérieure. Après avoir vécu une vie digne d'un roman, la grande dame de la danse a laissé à la société québécoise un héritage incontournable. Ludmilla Chiriaeff a laissé derrière elle des institutions, mais aussi des danseurs, des chorégraphes et des gestionnaires qui poursuivent sa vision à leur manière. Comme Annick Bissonnette, qui a été première danseuse au Grand Ballet canadien et qui est maintenant la directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec. Pour moi, c'est extrêmement important de poursuivre ce que Mme Chiriaeff a fait, affirme-t-elle. Annick Bissonnette n'a pas étudié à l'école supérieure, mais Ludmilla Chiriaeff l'a quand même accompagnée tout au long de sa carrière. Ça a commencé par un lien plus professionnel, puis c'est devenu un lien d'amitié vers la fin. C'était un lien de confiance, souvent par téléphone. Souvent aussi, j'allais la visiter et on discutait de tout et de rien, de la danse, de la vie, de la famille, se souvient Annick Bissonnette. Annick Bissonnette la décrit comme une femme très gentille, très maternelle. Jusqu'à la fin de sa vie, même malade à la maison, Ludmilla Chiriaeff voulait savoir ce qui se passait dans le monde de la danse. Il ne s'agissait pas de savoir les potins, mais c'était une discussion bienveillante. Ce n'était jamais dans le négatif. Dans nos dernières conversations, il était beaucoup question de poursuivre son legs. Le message de Madame. Le chorégraphe Jean Grandmaître a fait connaissance avec Mme Chiriaeff alors qu'il suivait une formation de danseur à l'école supérieure. Il affirme que les jeunes étaient impressionnés par Madame, qui représentait un chaînon important de l'histoire de la danse. On réalisait qu'on était en présence de quelqu'un qui avait fait de très grandes choses, quelqu'un de mystérieux. On disait toujours que Mme Chiriaeff avait 8 sourires. Il y en a un qui voulait dire que ça allait bien, puis un autre qui voulait dire qu'elle allait nous mettre à la porte le lendemain. nous a dit Jean Grand-Maître. Envers Jean Grand-Maître, Ludmilla Chiriev s'est montrée particulièrement encourageante. L'année de ma graduation, après 4 ans, j'étais très déprimée, raconte-t-il. Je n'étais pas vraiment heureux de mon travail. Je ne me trouvais pas très bon danseur. J'étais bon pour le corps de ballet, mais pas comme soliste. Ludmilla Chiriev l'a pris à part. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit, que tout ce qu'on m'avait enseigné, je ne l'avais pas nécessairement dans les jambes, mais dans la tête, et qu'avec ça, on pouvait faire bouger des montagnes. Elle m'a encouragé à chorégraphier, témoigne-t-il. Jean Grand-Maître a ainsi connu une carrière internationale en tant que chorégraphe, notamment à la Scala de Milan et à l'Opéra de Paris. Une rencontre marquante. La chorégraphe Ginette Lorrain a été recrutée par Ludmilla Chiriev alors qu'à 15 ans, elle était déjà un peu âgée pour commencer une sérieuse formation en ballet. Madame Chiriev avait remarqué la jeune fille dans un cours de danse moderne d'une organisation récréative. Elle m'a appelée pour aller m'asseoir près d'elle. Elle m'a caressé la joue. On a jasé un petit peu. Et puis, elle m'a offert une bourse pour aller à l'école supérieure. Ginette Lorrain croit que Ludmilla Chiriev a vu en elle une danseuse contemporaine parce que je n'avais pas nécessairement la morphologie pour faire du ballet. Elle a vu dans mes yeux que la danse, c'était ma vie, dit-elle. Ginette Lorrain a effectivement fait sa marque dans le monde de la danse contemporaine en rejoignant le groupe Nouvelle Air, puis en fondant sa propre compagnie Au Vertigo. Le directeur des Grands Ballets canadiens, Marc Lalonde, a également vu le cours de sa vie changer lorsqu'il a commencé une formation de danseur à l'école supérieure, alors dirigée par Madame Chiriev. C'était une personne qui impressionnait. Elle avait un regard pénétrant. C'est quelqu'un qui s'exprimait avec emphase. Même s'il a commencé le ballet sur le tard, Marc Lalonde a quand même dansé pour les Grands Ballets canadiens pendant une année avant de se diriger dans l'administration des arts. Il a fait un long détour par Imusici, l'OSM et l'École nationale de cirque avant de retourner au Grand Ballet. Il est très fier de l'évolution de l'institution. Avant, on avait 4 programmes par année en incluant Casse-Noisette. Maintenant, on en offre 6. C'est quand même 50% de plus, ça paraît. Nous avions 33 danseurs, nous en avons maintenant 45. Nous pouvons compter sur un public et des ressources plus vastes. Nous sommes capables de poursuivre la vision de Madame Chiriev d'offrir le registre complet du répertoire. Une question d'histoire. La première danseuse, Maude Sabourin, n'a pas connu personnellement Ludmilla Chiriev, mais elle ressent toujours son influence. C'est carrément une pionnière. Elle a mis de l'avant la danse, la tradition européenne, mais elle avait aussi cette vision de trouver notre propre identité, d'avoir un regard tourné vers l'avenir, vers la création, tout en maintenant la tradition, dit-elle. Pour Maude Sabourin, il est important de souligner l'apport de Ludmilla Chiriev en cette année de son 100e anniversaire. C'est normal de se rappeler ce qu'elle a fait pour nous, du chemin qu'elle a tracé. C'est important de se remémorer tout ça pour que les nouvelles générations sachent d'où on vient. C'était Un parcours dramatique, un destin lumineux, un texte de Marie Tison, paru le 12 mars 2024 dans la presse.
Quoi faire? Livre. 9 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 29 janvier 2025 dans le magazine Fugue. 1. La maison des non-dits. RuPaul. Biographie. l'Empire Drag Race a amené RuPaul sur le devant de la scène médiatique, alors qu'il était jusqu'à ce jour confiné à une présence épisodique sur les palmarès radiophoniques, Supermodel en 1993, ou à une apparition éclair au petit ou au grand écran, Madame Cummings dans The Brady Bunch Movie en 1995. Les choses ont depuis lors bien changé, puisque son nom est devenu une véritable marque de commerce. Mais qui est-il vraiment? C'est en 2009 que la série Drag Race prend son envol et poursuit depuis lors son ascension fulgurante à travers le monde. Un long cheminement se cache cependant derrière ce succès planétaire et l'artiste lève le voile sur de nombreux aspects de son passé, tant au regard de sa vie personnelle que des secrets de coulisses. Il ne faut cependant pas s'attendre à pénétrer dans l'univers de la série, puisque le pèlerinage auquel il nous convie se termine au milieu des années 90. La maison des non-dits s'amorce alors qu'il n'est encore qu'un bambin qui prend conscience qu'il est différent des autres et qu'il comprend, au détour de la dégustation d'un biscuit au beurre d'arachide, que la magie était un choix et qu'elle devait être créée. Cette devise le suivra tout au long de ses vies. Chacun des chapitres représente un instantané d'un moment fort de ses vies, que ce soit lorsqu'il est confronté à la misère la plus abjecte ou encore lorsqu'il est entouré de top modèles lors d'un défilé de Versace. On pourrait s'attendre à ce que le récit verse dans l'hagiographie, comme c'est trop souvent le cas dans ce type d'ouvrage. Mais RuPaul se montre étonnamment ouvert sur ses bons côtés comme sur ses travers, générant ainsi une succession de moments révélateurs ou poignants. C'est ainsi qu'il évoque le fait qu'il s'est longtemps perçu comme indésirable, puisque trop différent des canons de beauté gay mis de l'avant. On y découvre l'origine de certains slogans qui ponctuent, encore aujourd'hui, son discours. « You're born naked, and the rest is drag », ainsi que des détails croustillants sur certaines vedettes du monde du spectacle. C'est notamment le cas de sa première rencontre avec Madonna, qui lui jette un grognement méprisant lorsqu'il se trouve en sa présence. Le récit comporte cependant certaines absences surprenantes. La crise du sida est ainsi évoquée en à peine un demi-paragraphe, alors que le milieu drag fut particulièrement touché. Mais l'ensemble n'en demeure pas moins fascinant, tant pour la petite histoire de l'artiste que pour l'évocation du milieu dans lequel il évolue ou pour la trame sociale et culturelle qui s'inscrit en arrière-plan. 2. L'amour au micro-ondes. Tome 1. Karine. Bande dessinée. Selon un proverbe chinois, le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. Et c'est exactement ce qui survient lorsque Wacky, le présentateur d'une très populaire émission culinaire, fait irruption dans la cuisine de Camille. Le concept de l'émission est assez simple. Surprendre un ménage au moment où se confectionne le souper et en faire la critique. Wacky cache cependant un terrible secret puisque, malgré sa réputation de critique gastronomique, il est incapable de distinguer un bon plat d'un mauvais. Quelle n'est donc pas sa surprise de voir ses papilles gustatives soudainement s'éveiller dès la première bouchée? Envoûté par ses nouvelles sensations, il retourne rapidement sur les lieux du crime et le cuisinier se fait un plaisir de lui partager d'autres petits plats. Camille demeure cependant prudent et maintient une certaine distance avec son invité, puisque dans le passé, il s'est bercé d'illusions au regard d'un autre homme hétéro et en est ressorti le cœur blessé. Pourtant, Wacky multiplie les rencontres, même après avoir découvert que le jeune cuisinier était gay. Il s'exclame même qu'il se fiche complètement de ce genre de choses, sans réaliser que l'indifférence est peut-être la pire des déclarations qu'il pouvait faire. La menace d'une séparation l'amène cependant à réaliser que la magnificence des plats de Camille tient peut-être moins à la manière de les cuisiner qu'à celui qui œuvre devant les chaudrons. Mais les deux hommes sauront-ils s'avouer leurs sentiments respectifs? Une BD irrésistible de la BDiste Karine, présentant le portrait dramatique et romantique de deux hommes qui, par l'entremise de la gastronomie, se découvrent le goût du bonheur. Vous écoutez « Quoi faire ?» livre, 9 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 29 janvier 2025 dans le magazine Fugue. 3. Ménage à 3, volume 1 de 5. Gisèle Lagacé et David Lumsden, bande dessinée. On ne peut que se réjouir de pouvoir enfin savourer une traduction française du premier volume de Ménage à 3, l'hilarante bande dessinée de Gisèle Lagacé et David Lumsden, qui marie des personnages qui semblent tout droit sortis de l'univers naïf de Archie Comics avec un ton délicieusement libertin, voire parfois même grivois. Originellement publiée entre 2008 et 2019, la série rencontra un succès immédiat et a la particularité de se dérouler à Montréal. L'intrigue commence alors que Gary perd ses deux colocs qui viennent de réaliser qu'ils étaient gays et emménagent ensemble. Sa situation financière ne lui permettant pas de vivre seul, il affiche donc les deux chambres libérées et se retrouve avec deux femmes au caractère diamétralement opposé. Zee, une punk rocker pansexuelle qui n'a pas la langue dans sa poche, et Didi, une bombe sexuelle un peu crédule. Cette cohabitation n'est pas sans créer de heurts, puisque Gary est toujours vierge, mais doté d'une libido exacerbée que même son immense collection pornographique ne parvient pas à endiguer. S'ajoutent à ce brouhaha émotif et sexuel Dylan et Matt, ses anciens colocs, de même que Sonia, qui ne couche qu'avec des femmes, même si elle insiste pour dire qu'elle n'est pas lesbienne, et Yuki, qui souffre de phallophobie, la peur des pénis. Le tout n'est pas sans rappeler la prémisse de séries télévisées à la Three's Company mettant en scène une cohabitation improbable. S'ensuit bien évidemment toute une panoplie d'intrigues rocambolesques, toujours teintées d'un zeste, ou même d'un citron entier, de sexe bon enfant. De fait, toute la gamme des sexualités et des orientations y est abondamment représentée et contribue à l'humour généreusement déjanté de la série. À noter que la place occupée par Montréal n'est pas qu'anecdotique. De nombreux détails visuels ou même culturels en témoignent tout au long de la lecture. Par exemple, la chanson « T'es mon amour, t'es ma maîtresse » en arrière-plan d'une scène. Il ne faut pas s'en surprendre, puisque David Lumsden réside à Ottawa et Gisèle Lagacé est née et vit toujours au Nouveau-Brunswick. La série a remporté plusieurs prix et s'est complexifiée au fil des années, apportant des développements inattendus à une galerie de personnages haut en couleur qu'elle met toujours habilement en scène. Bref, il est impossible de résister à ce ménage à trois et on ne peut qu'attendre avec impatience la publication des 4 autres volumes de la série. 4. Le crime du garçon exquis. R. Lavallée, roman policier. Une querelle amoureuse se solde par un mort. Mais ce qui fait scandale, c'est bien moins qu'il s'agisse d'un crime passionnel que le fait que celui-ci implique deux hommes. Situé pendant la Première Guerre mondiale, au milieu des tranchées françaises, l'état-major canadien cherche à balayer sous le tapis cette sordide histoire. La vérité se révélera cependant bien plus tortueuse qu'il n'y paraît tout d'abord. Le coupable désigné est Bertie Williams, un jeune soldat canadien qui aurait tué son amant sous le coup de la jalousie. Matthew Callwood, un ancien policier, présent dans « Tous les loups », premier roman de R. Lavallée, se voit confier l'enquête pour rassembler toutes les preuves nécessaires à une exécution rapide et ainsi éliminer une situation embarrassante. Après tout, selon les forces armées, Williams n'est pas vraiment un homme. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups en élucidant une enquête et en supprimant un monstre? Callwood est cependant peu convaincu par les éléments, avant tout circonstanciels, qui lui sont apportés, et il décide de réaliser une véritable enquête de terrain. Cette investigation l'amène donc à pénétrer dans des maisons closes, réservées aux hommes, et à en interroger les tenanciers de même que certains clients. À travers une minutieuse reconstitution historique, il est ainsi possible de découvrir les pratiques des lieux de rencontre homosexuels de l'époque, mais également la nature des relations qui s'y tissaient. Callwood est d'ailleurs étonné par la diversité de la clientèle, qui inclut parfois même des soldats allemands qui usurpent une identité française ou anglaise afin de donner le change et de profiter des plaisirs de la chair. Au fil de son enquête, et malgré les séduisantes fausses pistes qui lui sont présentées, il mettra à jour un complot aux intrications beaucoup plus sombres qu'il n'y paraissait tout d'abord. Au-delà d'une enquête passionnante, le roman propose une exploration bouleversante de la misère des tranchées, des soldats qui ne constituent qu'une chair à canon anonyme et des hommes qui recherchent désespérément la chaleur de l'autre au cœur d'un abominable charnier. 5. Seul son coiffeur le sait. Joanie Godin et Gekins Kyle, roman. Kevin Kyle est un jeune coiffeur qui, après avoir connu une certaine célébrité à la suite de sa participation à la télé-réalité Loft Story, ne désire maintenant qu'une seule chose, rencontrer l'homme de sa vie et fonder une famille. Toutefois, cette recherche d'une vie conjugale parfaite ne se fera pas sans heurts et donnera lieu à de nombreux moments désopilants. Ce n'est pas un hasard si cette prémisse semble toucher à la réalité, puisque le roman de Joanie Godin et Kevin Kyle emprunte un genre peu fréquenté au Québec, celui de l'autofiction. Un récit tissé à même des éléments de la vie personnelle de l'auteur, narrateur, tout en reposant également sur la pure fiction. Ainsi, Kevin Kyle a bien participé à l'édition 2006 de Loft Story. Il est bien coiffeur et il est éventuellement devenu père de 3 garçons. Pour le reste, il demeure difficile de déterminer ce qui relève de la réalité ou de l'imaginaire. Cela dit, l'ouvrage ne se présente jamais comme une biographie du coiffeur, mais cherche plutôt à nous entraîner dans sa folie personnelle. Un peu comme lorsqu'on rapporte une anecdote à des amis et qu'à chaque nouvelle occurrence, on y ajoute de plus en plus de détails désopilants. Le récit fantasmé devient ainsi souvent bien plus truculent que son point de départ. C'est exactement le résultat atteint puisque le roman enfile un jeu d'anecdotes à travers lesquelles l'humour le dispute au serrement de cœur. Que ce soit au regard de son apprentissage de la coiffure, de la clientèle histrionique avec laquelle il doit composer ou d'une longue liste de rendez-vous amoureux désastreux, le quotidien de Kevin Kyle ne l'est jamais indifférent et suscite même de nombreux éclats de rire. Le roman ne tombe cependant jamais dans le piège de la farce et est, tout au contraire, adroitement ponctué de moments d'introspection ou d'événements dramatiques assez touchants. De même pour les personnages secondaires qui, bien que souvent excessifs, ne sombrent jamais dans la caricature. C'est notamment le cas du portrait relativement nuancé d'une groupie frénétique. Bref, une lecture des plus divertissantes. Vous écoutez « Quoi faire? Livre. 9 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 29 janvier 2025 dans le magazine Fugue. 6. Les meurtres des Monuments Men. L'art du meurtre. Tome 4. Joss Lanyon, roman policier. 4e opus de la série L'art du meurtre de la très prolifique autrice Joss Lanyon, qui met toujours en scène Jason West, membre du Art Crime Team du FBI, dans sa quête pour retrouver des œuvres d'art dérobées. Dans « Les meurtres des Monuments Men », l'enquête s'avère cependant plus délicate pour Jason, puisque certains éléments laissent entendre que son propre grand-père, membre des Monuments Men chargé de récupérer et de protéger les œuvres d'art dérobées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, aurait été complice de certains vols, dont un Vermeer d'une valeur inestimable. plutôt que de révéler le conflit d'intérêts potentiel au cœur duquel il se trouve placé, il décide de mener l'enquête au moment même où les cadavres commencent à s'accumuler. Alors que sa relation avec Sam Kennedy, l'agent du FBI auquel il doit rendre des comptes, est plus harmonieuse que jamais, il ne peut s'empêcher de craindre la réaction de celui-ci lorsqu'il découvrira le faisceau de demi-vérité dans lequel il enrobe délibérément l'enquête. Ajoutons à cela une intrigue périphérique autour de Jeremy Kaiser, un tueur en série révélé au cours d'une précédente aventure et qui en veut à ses vies. Puis on se retrouve devant un cocktail explosif. Encore une fois, Joss Lanyon nous présente un récit riche en péripéties de toutes sortes où, sans jamais perdre de vue l'enquête en cours, l'accent est toujours mis sur la relation et les émotions partagées par les personnages. Le roman est disponible dans une fort bonne traduction française en format numérique. 7. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre 2e. Emil Ferris, bande dessinée. Karen Reyes est une jeune fille de 10 ans qui est fascinée par les monstres et qui est d'ailleurs convaincue d'appartenir à un genre bien distinct de l'espèce humaine, les lycanthropes. Nulle surprise, puisqu'en 1968, être une louve-garou est sans doute socialement beaucoup plus acceptable qu'être attiré par les femmes. Dans le premier volume, Karen enquête sur la mort d'Anka Silverberg, une belle et mystérieuse voisine rescapée de la Shoah qui se serait suicidée d'une balle en plein cœur. L'explication lui semble tirée par les cheveux et elle décide donc de revêtir un imperméable à la Columbo pour faire la lumière sur cette histoire. Ce faisant, elle part à la rencontre d'autres monstres, bons et mauvais. Elle se retrouve plongée au cœur d'un véritable nid de vipères où pullulent truands, prostituées, drag queens sacrifiées et fantômes qui, pour chaque réponse apportée, soulèvent un lot de nouvelles questions. Elle lève ainsi le voile sur le passé d'Anka, au cœur des camps d'extermination nazie, mais également sur des éléments troublants du passé de sa propre famille, plus particulièrement son frère, Deez, qui aurait eu un frère jumeau tué par balle alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Mais dans quelles circonstances et que cherchent à cacher les forces policières? Par ailleurs, qu'est-ce qui se dissimule au sous-sol de son immeuble derrière des portes soigneusement cadenassées? Elle peut heureusement compter sur l'aide de Shelley, une nouvelle camarade qui partage son obsession des monstres et qui flirte avec elle. De Jeffrey, The Brain, Alvarez, dont le principal loisir est d'élaborer des théories du complot, et de Françoise, une amie qu'elle avait autrefois connue sous le nom de Franklin. Un roman graphique qui adopte plusieurs formes, journal intime, roman policier et bestiaire de monstres fantastiques. Le récit est d'ailleurs émaillé de magnifiques planches en format pleine page, pastichant le style de certaines couvertures pulp des comics des années 40 et 50. Le premier volume, louangé par la critique et récipiendaire de nombreux prix, a été publié en 2017, 2018 en français, et il aura fallu attendre 7 années pour enfin pouvoir plonger dans sa suite. Il faut dire que l'autrice, Emil Ferris, est demeurée partiellement paralysée après avoir contracté le virus du Nil. Malgré cette longue attente, ce nouvel opus ne déçoit pas, tant par la magnificence de son graphisme que par un récit qui, bien que sautant parfois du coq à l'âne, demeure toujours prenant, voire hypnotisant. Il faut par ailleurs souligner le travail hors pair réalisé par la maison d'édition québécoise Alto, tant pour la traduction française de Jean-Charles Khalifa que pour le lettrage de Toussaint Louverture et Emmanuel Justeau. 8. Sanctify, volume 3, collectif God Station, roman policier. 3e et dernier volume de la série du collectif God Station, qui résout les mystères entourant la série de meurtres sataniques qui se sont déroulés dans l'orphelinat d'un petit village d'Angleterre. Des révélations qui éclaireront également d'un jour nouveau la relation entre les deux enquêteurs, Lance Hunter et William Gilbert. Exorciste émérite, Lance ne pouvait que s'interroger sur certains comportements étranges du policier qui l'accompagne, tout aussi bien dans son enquête que dans sa chambre à coucher. Son instinct ne le trompait pas puisque la libido déchaînée de celui-ci cachait une part d'ombre qui allait bien au-delà de pratiques sadomasochistes. En effet, l'une des victimes refuse de se détacher du plan terrestre et entend bien infliger un châtiment terrible à ceux et celles qui ont réalisé les sacrifices. William se révèle ainsi le conduit idéal pour perpétrer les supplices sanglants. Lance saura-t-il faire fi des élans de son cœur et éliminer son amant, ou bien est-il encore possible de le délivrer de ses démons? Ce troisième opus est tout aussi efficace que les deux premiers, tant sur le plan graphique que sur celui du cheminement des différents personnages, même si la conclusion demeure un peu télégraphiée. Fidèle aux règles du yaoi, il ne faut pas se surprendre que la BD soit teintée d'un romantisme exacerbé, parfois même aux frontières du mélodrame. On pourrait s'attendre à ce que ce dernier opus soit uniquement articulé autour d'une confrontation surnaturelle entre les deux hommes, mais l'ouvrage réserve une petite surprise puisque, après l'épilogue du chapitre 14, il propose un antépisode sous la forme d'un chapitre 9.5, où l'on goûte de près au débordement charnel des deux hommes intervenus au cours de l'enquête. Comme à leur habitude, les éditions Tefu Comics proposent un ouvrage doté d'une traduction impeccable et ponctué de magnifiques planches imprimées sur papier glacé. 9. Cher, l'autobiographie, volume 1. On pourrait être étonné que deux volumes soient requis pour tracer la vie personnelle et la carrière de Cher, mais la lecture de ce premier opus, qui compte près de 500 pages, prouve éloquemment le contraire. Drames, succès et revers de fortune y pullulent, à tel point qu'on a parfois l'impression d'être au cœur d'un feuilleton à la Dynasty. Comme il se doit, l'ouvrage débute par la petite enfance de Cher, qui souligne la misère dans laquelle vivait sa famille et la population du Missouri depuis la Grande Dépression. Ses chaussures ne conservaient leur forme que grâce à de solides élastiques. Depuis des générations, ma famille se battait tous les jours pour survivre. La résilience fait partie de mon ADN. Inutile de dire que cette devise combative s'inscrit avec force tout au long de ses vies et des déboires auxquels elle est confrontée. À la différence de plusieurs ouvrages qui ont tendance à verser dans l'auto-congratulation, celui-ci se distingue par une grande capacité d'autodérision. Ainsi, Cher n'hésite pas à attirer l'attention sur ses bourdes, ses faux pas ou même des décisions qu'elle regrette. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle rencontre Sonny Bono, alors choriste pour Phil Spector, et qu'elle emménage avec lui. On passera rapidement sur ce qui ressemble fortement à une relecture naïve et bancale de la réalité, lorsqu'elle raconte que Sonny pensait qu'elle était majeure et que, de toute manière, ils n'ont pas couché ensemble avant qu'elle ait réellement atteint ses 18 ans. Bel effort narratif, mais fort peu convaincant. Toujours est-il que c'est le début d'une ascension vers la gloire, alors qu'elle délaisse ses ambitions d'œuvrer au cinéma pour se consacrer plutôt à la chanson. Leur synergie sur le plan artistique ne se traduit cependant pas dans leur vie domestique, et il lui faudra des décennies pour s'extirper des abus émotionnels ou physiques. Par exemple, Sonny qui brûle ses vêtements de sport qu'il juge trop sexy, et des tripotages financiers. C'est en 1965, avec le tube « I Got You, Babe », qu'ils peuvent réellement prétendre à la célébrité, même si, comme elle le souligne, leur statut d'artiste véritable était déjà remis en question par plusieurs. C'est ainsi que, lors d'un concert, la princesse Margaret a demandé que le volume soit baissé tant elle détestait ce qu'elle entendait. L'ouvrage se termine alors qu'elle est au début de la trentaine, à l'aube des années 80, et d'une toute nouvelle carrière en tant qu'artiste solo et actrice, par laquelle son statut d'icône gay se cristallise avec force. Paradoxalement, il s'agira également d'une période au cours de laquelle elle sera tout d'abord incapable de faire face à la sortie du placard de son enfant. On ne peut qu'être intrigué par ce prochain périple en montagne russe qui s'annonce tout aussi passionnant que l'est ce premier opus. C'était « Quoi faire, livre, 9 suggestions de lecture » de Benoît Mignot, paru le 29 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Hydro, mon arbre et moi, un texte de Marie-France Bazot, paru le 5 mars 2024 dans la presse. J'avais mon arbre préféré, il n'est plus. Peu avant Noël, des employés de la ville sont venus abattre mon érable. Je le connaissais depuis 25 ans, il en avait 70. Immense, il apportait à la maison et à la rue une ombre bienfaisante l'été. De mon bureau, j'y voyais des merles, des cardinaux, des tentatives de nid d'écureuils. Mon chat Bob y est déjà resté coincé après une escalade démentielle de ses branches, nécessitant l'intervention de voisins agiles. Au printemps, le sol était vert fluo de ses samars. Il y a quelques années, lui et ses semblables formaient une canopée apaisante au-dessus de la rue. Mon arbre, sous, dans les fils électriques, du mauvais côté de la rue, celui des poteaux. Au fil des ans, un à un, les grands arbres matures de la rue ont disparu. Les interventions d'Hydro-Québec pour dégager les fils se sont faites plus intenses avec la fameuse coupe hydro. Mon érable avait pourtant survécu au verglas de 1998, mais les tailles sauvages se succédaient, accentuant sa désarticulation, favorisant l'entrée des moisissures, répartissant inégalement le poids des grosses branches restantes. La tempête d'avril dernier a emporté un de ses bras, scellant son sort. Une horticultrice municipale a peint la ligne rouge fatidique sur son pauvre tronc. Le matin de l'abattage, les émondeurs étaient aussi tristes que moi. Tous s'entendaient pour dire que si l'arbre était affaibli et devenu dangereux, c'est que tout un continuum de coupes brutales l'avait progressivement condamné. On replantera un chicot qui, dans 20 ans, ne dérangera personne et qui déploiera ses branches raisonnables, loin des précieux fils. Ma facture d'électricité explosera. L'air climatisé fonctionnera comme jamais, la maison étant exposée au sud. La rue n'est plus que l'ombre d'elle-même, privée de la plupart des arbres majestueux qui en faisaient la beauté et la climatisation naturelle. Comme tout le monde, j'aime Hydro, mais je suis perplexe. La semaine dernière, la Société d'État a déposé un plan d'inspection de son réseau afin de réduire le nombre de pannes. Nous sommes, à cet égard, les cancres de l'Amérique du Nord. Quelque 40% des pannes sur tout le territoire québécois seraient dues à la végétation. Le plan est de réduire de 1% le nombre de pannes en abattant 75 000 arbres et en enfouissant 12 kilomètres de lignes. Rien n'a été dit à propos d'un plan de compensation pour cette hécatombe. Oui, Hydro a le mérite de la franchise. Mais où est la vision pour le replantage? Je ne parlerai ici que de ce que je connais, l'état de la canopée montréalaise. Même si elle y est inégalement répartie, Montréal est une ville relativement verte comparativement aux deux belles empierrées que sont Paris et New York. L'absence d'arbres en territoire urbain crée les fameux îlots de chaleur, sans parler d'une privation de beauté et de la diminution du sentiment de bien-être. alors que les arbres sur rue tempèrent le climat, absorbent bruit et pollution, épongent le ruissellement des eaux, augmentent la valeur du bâti. La plantation d'arbres est un des chantiers importants des villes durables et Montréal y est sensible. L'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, l'affirme. Les villes sont de plus en plus préoccupées par le verdissement de grands parcs et des rues. C'est une réponse aux enjeux soulevés par les changements climatiques. En fait, c'est une question collective, alors que de planter un amélanchier dans sa cour arrière relève du bien-être personnel. En ce moment, on sabre dans l'arbre collectif et les citoyens qui le peuvent privatisent leur bien-être. Cela étant dit, le paradoxe est que la ville fonctionne main dans la main avec Hydro, élaguant, abattant puis remplaçant les grands arbres par des espèces plus modestes. On y perd en patrimoine planté et en qualité de vie. Est-ce pourtant une fatalité? Dans une lettre ouverte, Jeanne Millet, chercheuse en architecture des arbres, a récemment demandé au gouvernement du Québec de limiter l'abattage au nom de la protection du réseau d'Hydro. Elle y parle de l'échec des coupes effectuées depuis des décennies qui fragilisent les arbres et engendrent des coûts qui augmentent d'année en année. L'abattage crée, dit-elle, de la désertification en milieu urbain. Les tailles en V provoquent des repousses fortes et indésirables, alors que les arbres auraient la capacité de contourner naturellement et efficacement les fils. Ils deviendraient ainsi des agents protecteurs plutôt que des dangers. Elle affirme qu'Hydro a un biais en défaveur des arbres. Disons que ça soulève de bonnes questions. Hydro est un peu cow-boy. Et son profit à court terme pourrait l'emporter sur le bien commun à long terme. Tout ça ne ramènera pas mon érable, mais ça me pousse à me questionner sur l'apparente contradiction entre le discours sur les îlots de chaleur et les villes vertes et les impératifs du progrès et du profit. Je regarde dehors et remarque la ligne rouge sur le gros érable de mon voisin. Des merles inconscients tournent autour d'un nid datant du printemps dernier. Dans quelques semaines, la ville l'abattra. La rue était verte, elle devient progressivement nue, mais ça ne semble pas troubler Hydro-Québec. C'était Hydro, mon arbre et moi, un texte de Marie-France Bazot, paru le 5 mars 2024 dans la presse.